Vous êtes sur RTL.
Vincent Lambert, le médecin de l'hôpital de Reims, a annoncé ce matin à la famille un nouvel arrêt des traitements du maintien en vie. C'est la troisième fois que ce processus est engagé, mais il n'y a désormais plus aucun recours judiciaire possible pour les parents qui s'y opposent. Le médecin en appelle à la responsabilité de chacun pour que l'accompagnement de Vincent Lambert soit le plus paisible, intime et personnel possible. Tétraplégique en état végétatif depuis plus de 10 ans avec une famille divisée, le cas Vincent Lambert est aussi devenu le symbole du débat sur la fin de vie en France. Et on en parlera à 18h20 avec Alain Claisse, co-auteur avec Jean Leonetti de cette loi. RTL Soir, première édition, c'est avec vous Christelle Robière, bonsoir.
Bonsoir, bonsoir à tous.
Et les autres titres.
1900 suppressions de postes chez Conforama, c'est confirmé. 32 magasins vont fermer dans tout le pays. Celui du Pont-Neuf à Paris n'a même pas ouvert aujourd'hui. Les salariés étaient trop écœurés. 13 candidats au bac arrêtés pour soupçon de fraude sur les sujets de maths des sections S, E, S et L. Reste à connaître leur complicité dans ces fuites. L'incroyable magot suisse de Raymond Barre, l'ancien Premier ministre apôtre de la rigueur, aurait planqué 11 millions de francs suisses à Bâle. Révélation du canard enchaîné. À suivre également la suite du marathon européen de Bruxelles. Une femme pourrait prendre la présidence de la commission, la ministre allemande de la Défense. Accord en vue. La Bourse de Paris termine ce soir en légère hausse de 0,16% à 5576 points. Les courses à Vichy, il fallait jouer le 11, le 2, le 14, le 12 et le 8.
À la fin du journal, la question qui vous permet de comprendre l'actualité aujourd'hui, la loi anti-fessée qui est en passe d'être adoptée définitivement. Nous vous dirons pourquoi elle est surtout symbolique. Avant 18h30, les coulisses de l'actualité, on vous emmènera dans les coulisses de cette clinique du nord de Chypre où de plus en plus de couples français se rendent pour une PMA qui leur permet de choisir le sexe de leur futur enfant. Puis le point de vue de Benjamin Sportouche, ce soir la manif écolo du Pont Sully, violence policière ou faute politique. Et puis à 18h35, le deuxième invité d'RTL Soir, Martin Hirsch, le créateur du service civique et de l'Institut de l'Engagement. Il organise le campus de l'engagement dans le Vercors, des rencontres entre des jeunes, des personnalités, des grands patrons. L'objectif, c'est de démocratiser les recrutements et de reconnaître d'autres compétences. Et puis à 19h15, évidemment, comme chaque soir, on refera le monde. Le temps, Peggy Broche, attention aux orages ce soir.
Et oui, 11 départements sont en vigilance orange pour de violents orages. Le Cantal, la Haute-Loire, l'Ardèche, la Lozère, le Gard, les Alpes de Haute-Provence, les Hautes-Alpes, l'Isère, l'Ain et les Deux-Savoie. Il y a de fortes rafales de vent, de fortes pluies et un risque de grêle, donc prudence. Et puis demain, ce sera encore une belle journée ensoleillée sur la moitié nord, plus mitigée au sud, avec de la grisaille dans le sud-ouest le matin. Quelques nuages et quelques gouttes possibles également entre le Poitou et la Franche-Comté. Ça va se dégager dans l'après-midi, sauf en montagne, où on attend encore des orages et de la grêle localement. Le tout sous des températures en hausse, jusqu'à 36 degrés dans le sud.
Merci Peggy, à tout à l'heure.
RTL Soir.
C'est donc sans doute l'épilogue de l'affaire Vincent Lambert.
Le médecin de ce patient tétraplégique en état végétatif depuis plus de 10 ans engage donc aujourd'hui un nouvel arrêt des traitements. Mais cette fois, les parents de Vincent Lambert qui s'y opposent n'ont plus aucun recours juridique. Le médecin en appelle à la responsabilité de chacun afin que l'accompagnement, dit-il, soit le plus paisible, intime et personnel possible. Gauthier de Lombugard, vous êtes devant le CHU de Reims pour RTL.
Effectivement, face à la barrière automatique de l'entrée du CHU à côté du parking où sont postés un agent de sécurité au brassard orange et un véhicule de police. Depuis l'annonce de l'arrêt des soins par le docteur Sanchez ce matin, le même processus d'accompagnement dans la mort de Vincent a été mis en place au niveau médical et aussi en ce qui concerne les horaires de visite. Ils sont élargis et imposés afin d'éviter que les deux camps de cette famille déchirée ne se croisent. La maman de Vincent Lambert, Viviane Lambert, est autorisée à venir dans la chambre de son fils depuis 16 heures. Elle n'est pas encore arrivée à Reims. Une maman qui était hier au siège de l'ONU à Genève pour réclamer de l'aide et sauver son fils de l'assassinat selon ses propres termes. Les avocats des parents ne disposent plus d'aucun recours judiciaire pour interrompre le processus, mais ils ont annoncé vouloir porter plainte contre le chef du service de soins palliatifs pour meurtre avec préméditation. Dans l'autre camp, celui qui se bat depuis plus de 10 ans pour l'arrêt des soins, l'épouse de Vincent Lambert, Rachel, ne s'est pas exprimée. RTL a pu joindre par téléphone le neveu du patient tétraplégique en état végétatif. Il ne souhaite pas s'exprimer trop rapidement, mais devrait venir à l'hôpital Sébastopol de Reims demain ou jeudi pour une éventuelle prise de parole.
Gauthier de Lombugard à Reims pour RTL.
On se retrouve donc dans le même processus que le 20 mai dernier qui avait été interrompu par la justice et les médecins mettent donc en place ce que la loi Claisse-Leonetti appelle une sédation profonde et continue, Odile Pouget.
Oui, cela signifie qu'on va lui injecter un anesthésique très puissant à action rapide, sans doute en intraveineuse. cartonneuse. C'est une mesure de précaution pour s'assurer que le patient ne souffre pas, qu'il ne ressent ni douleur ni angoisse, même si les experts l'ont confirmé à plusieurs reprises. Vincent Lambert est plongé dans un coma profond avec des lésions cérébrales irréversibles et sans conscience décelable. Parallèlement à cette sédation, on va lui retirer cette sonde qui le nourrissait et l'hydratait, mais on n'arrête pas les soins. Les infirmières vont donc continuer à lui faire sa toilette, à le masser, à lui humecter la bouche pour prévenir par exemple les aphtes qui pourraient se former. Les proches peuvent tout à fait être sollicités pour ce genre de soins, ce qui leur permet d'être en relation jusqu'au bout. Combien de temps cela peut-il durer? C'est le grand mystère, 2 à 3 jours en moyenne, mais selon les spécialistes en soins palliatifs, cela peut aller jusqu'à 10. En tout cas, Vincent Lambert sera accompagné jusqu'à la fin, et par l'équipe médicale, et par sa famille, avec des tours de garde pour chacun, comme on vient de le voir.
Merci Odile Pouget, et puis on va y revenir évidemment dans quelques minutes, puisqu'on sera avec Alain Claisse, co-auteur de cette loi sur la fin de vie, tout à l'heure à 18h20. Conforama confirme, même si le comité central n'a pas eu lieu ce matin, 1900 emplois vont bel et bien être supprimés dans le groupe qui compte 9000 salariés.
32 magasins vont fermer, c'est une information RTL, d'Antibes à Forbach en passant par Dreux ou Montauban. Vous pouvez d'ailleurs retrouver la liste sur notre site rtl.fr. Avant même l'annonce officielle, les salariés du magasin du Pont-Neuf à Paris avaient décidé, très amer, de ne pas ouvrir ce matin, le ENAF.
Oui, pas de banderole, pas de slogan, juste des regards inquiets, des accolades entre collègues qui ont appris la nouvelle tard hier soir et ceux qui ne l'ont su qu'en arrivant ce matin.
Ça a été la surprise pour moi.
Mais moi j'arrivais pour bosser là tout de suite, oui.
Ah, pour nous c'est une violence plus qu'incroyable. Moi je suis tombée des nues là. À 60 ans, comment voulez-vous retrouver du travail?
Ça fait mal au cœur, ça fait 20 ans. Moi j'ai commencé en 99 à Conforama.
Bintou, 14 ans d'ancienneté, est arrivé au magasin du Pont-Neuf après la fermeture de celui de Malakoff il y a 4 ans.
Je revis exactement ce que j'ai pu vivre il y a quelques années et c'est très très compliqué. J'ai une collègue qui m'a appelé hier soir, qui m'a confirmé que Pont-Neuf était dans la liste des 32 magasins qui devaient fermer. Je me suis réveillée en larmes cette nuit, j'ai très peu dormi.
Et d'autres résignés discutent des mauvais choix qui, selon eux, ont conduit à cette situation.
Voilà, 17% des parts de showroom privé à hauteur de 150 millions d'euros environ et ils les ont revendus la moitié du prix. Ouais, le foot, bien évidemment, les 25 millions investis dans la Ligue 1, hein, voilà.
Et ce délégué syndical appelle aussi ses collègues qui viennent de partir en vacances pour leur dire que leur magasin va fermer dans quelques mois.
Anne Le Hénaff pour RTL. Jean-Michel Blanquer avait promis de les rattraper et d'être d'une rigueur implacable.
Eh bien, 13 candidats au bac ont été arrêtés en région parisienne et du côté de Marseille. Ils sont suspectés d'avoir échangé des sujets de maths S, E, S et L via la messagerie WhatsApp et par SMS. La question désormais, Guillaume Chiez, est de savoir qui leur a fourni les sujets au sein de l'éducation nationale.
Oui, c'est même la question centrale posée aux 13 candidats placés en garde à vue ce matin. Une certitude, ils ont tous été en possession du sujet avant l'épreuve. C'est en remontant leurs différentes adresses électroniques que les policiers ont pu les interpeller. 9 garçons et filles ont été arrêtés à Paris, 4 à Marseille. Maître Daniel Felous, l'avocat d'un de ces candidats, est au micro de Romain Houg.
Pour l'instant, il est un peu perdu. Pour lui, il a l'impression d'avoir rien fait, si ce n'est que d'avoir regardé des sujets de s'être entraîné. Donc, pour l'instant, il n'a pas encore réalisé réellement ce qui se passe. C'est un jeune majeur de 18 ans. Ce qu'ils veulent savoir, certainement les enquêteurs, et un juge d'instruction peut-être, veulent savoir d'où vient cette fuite et savoir le véritable auteur de cette fuite. C'est certainement quelqu'un qui travaille dans l'éducation nationale ou peut-être quelqu'un qui a subtilisé des sujets.
Et d'autres questions se posent, notamment celle de l'ampleur de cette fuite. Le sujet n'a semble-t-il pas été diffusé sur les réseaux sociaux, mais seulement via la messagerie cryptée WhatsApp. Les élèves sont soupçonnés de fraude, d'abus de confiance et de recel de ce délit. Ils encourent une peine qui peut aller jusqu'à 3 ans de prison ferme, en plus d'une interdiction de 5 ans de passer des examens.
Guillaume Chiez du service police-justice d'RTL.
Et une nouvelle hausse de l'électricité à partir du 1er août, plus 1,23%. C'est ce que propose la commission de régulation de l'énergie. Elle viendrait s'ajouter aux 5,9% du 1er juin dernier. Nous sommes toujours en période de rattrapage après le gel des prix de l'énergie décrété cet hiver en pleine crise des gilets jaunes.
Allez, une courte pause et dans un instant, on vous dit tout sur le magot suisse de Raymond Barre.
Il est 18h09, RTL Soir. Mobile.fr. Il est 18h11, RTL Soir avec Vincent Parisot et la suite du journal de Christelle Rebière.
Et donc le magot suisse de Raymond Barr, c'est une révélation du canard enchaîné.
L'ancien Premier ministre, professeur d'université, apôtre de la rigueur et surnommé par Valéry Giscard d'Estaing, on s'en souvient, le meilleur économiste de France, eh bien Raymond Barr aurait su faire fructifier en toute discrétion son capital. D'après l'hebdomadaire, il aurait planqué 11 millions de francs suisses à Bâle, mais le magot n'aurait été découvert qu'après sa mort, Jean-Alphonse Richard.
Effectivement, en 2013, 6 ans donc après le décès de l'ancien Premier ministre, l'administration fiscale est alors alertée par un informateur de l'existence d'un compte attribué à Raymond Barr au Crédit Suisse avec cette mention 11 millions de francs suisses, soit près de 7 millions d'euros. Après la mort de Raymond Barr, cet argent est naturellement revenu à la veuve de l'ancien ministre, Ève Barr, et à ses deux fils qui, toujours selon le canard enchaîné, se seraient bien gardés d'alerter le fisc. Ça n'est suivi une procédure très discrète de redressement au cours de laquelle, face à des héritiers réticents, Bercy aurait menacé de saisir la villa de la famille à Saint-Jean-Cap-Ferrat. Devant ce manque d'empressement, le parquet national financier va même ouvrir en 2016 une information judiciaire toujours en cours. Les fils de Raymond Barr se seraient finalement acquittés de 1 million d'euros de pénalité. La justice ignore toujours l'origine exacte de cet argent.
Jean-Alphonse Richard pour RTL. Tiens, on y reviendra évidemment tout à l'heure dans On refait le monde. C'est peut-être le début du commencement de l'ébauche d'une solution à Bruxelles.
Oui, au lendemain de la colère d'Emmanuel Macron dénonçant un échec des négociations pour désigner qui allait occuper les 4 postes clés de l'Europe, eh bien, on retrouve les mêmes en conclave depuis le début de l'après-midi. Et c'est la ministre allemande de la Défense qui semble tenir la corde pour la présidence de la Commission européenne, Julien Fautra.
Oui, Ursula von der Leyen, retenez ce nom parce que c'est bien elle qui pourrait sortir du chapeau dans le sprint final, elle qui ferait désormais consensus, d'abord parce qu'elle est de droite, or ce sont les conservateurs qui sont arrivés en tête aux élections européennes, question de légitimité électorale. Ensuite, elle est allemande et elle parle français et rien ne se décide sans l'impulsion du couple Macron-Merkel. Par ailleurs, c'est une modérée relativement proche des libéraux, une sorte de dénominateur commun entre la chancelière et le chef de l'État. Enfin, jamais ce poste, tout en haut de la hiérarchie européenne, n'a été occupé par une femme. Les tractations sont toujours en cours, elles pourraient durer encore des heures, d'autant que les sociaux-démocrates qui pèsent en Europe trouvent la solution von der Leyen inacceptable. Vous voyez, rien n'est simple, mais les 28 ont tout intérêt à trouver une solution aujourd'hui, avant que le Parlement élise lui-même son président dès demain.
Julien Fautra à Bruxelles pour RTL.
Et l'image du jour est venue du Parlement européen, justement à Strasbourg, où les députés faisaient leur rentrée. Ceux du Brexit Party de Nigel Farage ont tourné le dos pendant que retentissait l'hymne européen dans l'hémicycle, l'ode à la joie de Beethoven. Les 29 députés britanniques attendent que le Royaume-Uni quitte l'Europe.
Voilà, et c'est au son de l'hymne à la joie qu'on peut vous annoncer aussi qu'Adrien Rabiot rebondit à la Juventus de Turin.
L'ancien milieu de terrain du PSG a officiellement été présenté à la presse après avoir signé son contrat. Et il a eu cette phrase assassine contre son ancien club où il a été placardisé pendant les 6 derniers mois.
C'est un très grand club, très prestigieux, qui a pas mal d'expérience au niveau européen, qui arrive très souvent dans le dernier carré, qui a joué des finales il y a pas très longtemps. Un club forcément dans mon esprit au-dessus du PSG et forcément qui m'inspire beaucoup. Ça a été 6 mois compliqués, c'est vrai, très compliqué même sur le plan sportif et sur le plan privé et émotionnel. Aujourd'hui, tout ça c'est fini, c'est derrière moi. J'aurais préféré quand même que ça se termine dans de meilleures conditions. Ça ne dépendait pas que de moi, donc voilà.
Voilà, vous l'avez entendu, la Juve est un club au-dessus du PSG. Au Mondial, première demi-finale entre les États-Unis et l'Angleterre à Lyon, ce sera tout à l'heure à partir de 21h. À Wimbledon, Gilles Simon, Joe Wilfried Tsonga et chez les dames, Kristina Mladenovic se sont qualifiés pour le second tour. En revanche, Dominic Thiem, le finaliste de Roland-Garros, est déjà out. Il a été éliminé dès le premier tour par l'Américain Kéré. Il avait déjà été sorti au premier tour l'an dernier. Gazon maudit.
Ouais, ça ne veut pas, ça veut pas, comme on dit. Vous revenez tout à l'heure à 18h30.
À tout à l'heure.
Je vous accueillerai avec plaisir, Christelle. Et maintenant, les clés pour bien comprendre l'actualité.